Donc on va reprendre, comme on a un petit peu de retard, je vous propose d'enchaîner les deux communications et de faire la partie questions avec les deux intervenants de la deuxième partie de la matinée pour avoir quand même le temps de déjeuner et de retrouver Étienne Davodeau en début d'après-midi sans trop de retard puisque lui aura un train ce soir donc ne pourra pas trop prolonger, on ne peut pas trop décaler la journée. Je remercie Véronique Servat qui nous vient de Montreuil, donc, qui est venue pour la journée et qui est enseignante dans un collège de Montreuil, le collège Paul-Éloire, si je ne dis pas de bêtises. Et parmi de nombreuses activités qu'elle peut avoir autour de l'histoire et de la géographie de cet enseignement, elle est co-animatrice, je ne sais pas comment on dit,
Oui,
on va dire co-animatrice, contributrice, d'un blog qui s'appelle Samara. Et sur Samara, c'est un collectif d'enseignants qui propose plein de réflexions, à la fois pédagogiques et puis bien au-delà finalement, sur les arts, donc appréhendés par l'histoire et par la géographie, et tout particulièrement sur la musique et la bande dessinée. Donc c'est les deux gros axes de ce blog Samara que je vous recommande fortement. Et c'est pour ça que on lui a proposé aujourd'hui de venir nous parler avec une approche sur le monde, sur la nature, sur le monde rural, sur l'écologie, c'est normal, qui va peut-être élargir une autre manière d'appréhender la nature. Donc merci Véronique.
Merci. Je ne vais pas faire l'économie non plus de remercier Bénédicte de m'avoir invité à cette journée d'études. Je m'excuse, mais moi, c'est un exercice auquel je suis peu habituée. Donc, vous me pardonnez d'être un peu le nez dans mes notes. Je suis nettement moins à l'aise que les personnes qui sont intervenues auparavant. Mais j'espère quand même arriver à faire à peu près illusion au cours de cette intervention. Alors, comme l'a dit Bénédicte, je suis enseignante en Seine-Saint-Denis, dans le secondaire. Et à ce titre, évidemment, parmi vous, je me sens un petit peu une intruse, d'autant plus qu'ici on est dans un lieu qui est dédié à l'enseignement universitaire, même si je sais que c'est souvent très bien de pouvoir se jouer un petit peu des hiérarchies et des cloisonnements pour au contraire aller davantage vers l'échange. Je me sens aussi doublement une intruse. Parce que c'est un questionnement que j'ai déjà eu avec Bénédicte un petit peu en aparté. Je ne me sens pas vraiment très légitime pour parler de géographie. En effet, comme beaucoup d'enseignants du secondaire, hein, j'ai suivi un cursus de formation en histoire. Donc voilà, c'est un petit peu l'intruse de la journée. Effectivement, on pourrait balayer la question de la légitimité d'un revers de la main pour prendre acte avec fatalisme hein, d'un état de fait qui est certes pas irréversible. Mais qui est quand même, en tout cas pour moi, pesant. Hein. Mais je voudrais quand même convoquer deux petits arguments pour venir à mon secours, histoire de justifier ma communication. J'ai pas une formation universitaire approfondie au-delà de la licence en géographie, mais j'enseigne depuis un certain nombre d'années maintenant, un peu plus de 20 ans. Voilà, j'ai une expérience, je pense, et un intérêt aussi à l'enseignement de la géographie scolaire. Donc, c'est sur ce terrain-là que je vais me situer. L'expérience, donc, devrait, j'espère, en tout cas, m'octroyer une certaine crédibilité. Néanmoins, j'implore votre indulgence sur mon maniement, sans doute imparfait, parfois approximatif, du vocabulaire et des notions disciplinaires propres à la géographie. Et à ma décharge, je pense que je peux invoquer comme excuse que les contenus, aussi bien en géographie scolaire qu'universitaire, ces dernières années ont quand même été beaucoup renouvelés. D'autre part, sans vous délivrer un tableau totalement misérabiliste de l'enseignement dans le secondaire, en particulier en collège, il est certain que la dégradation ces dernières années des conditions d'exercice du métier a fait que des supports comme la bande dessinée ont été une véritable bouffée d'air frais, un vent printanier, à la fois sur la possibilité de renouveler, enfin, d'appréhender différemment les contenus, mais aussi de rafraîchir un peu les pratiques pédagogiques. Et comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, c'est face à des contenus asséchés, souvent répétitifs et ennuyeux, qu'on demande à l'enseignant finalement de mettre en spectacle ce qu'il enseigne. Bon, avec la nature, il y a sans doute des possibilités, mais pour ma part, je considère que c'est un petit peu artificiel tout ça. Et si, en fait, la bande dessinée a fait irruption dans les cours de géographie, la classe de géographie de collège, c'est pas franchement pour cette raison, je pense, ni pour répondre à l'idée de faire de l'histoire des arts, qui est une injonction désormais assez pesante, mais parce qu'ils constituent des formes tout à fait pertinentes, ces documents d'appropriation, puis de ventilation des savoirs, que ce soit à l'intérieur de la classe ou finalement hors de la classe. Je crois qu'on l'a entrevu quand même tout à fait clairement ce matin dans les deux premières interventions. Par ailleurs, il est clair que dans l'acte d'enseigner, et je m'arrêterai là pour parler de moi, il est quand même important de temps à autre aussi de penser au plaisir du professeur. C'est pas interdit, hein, loin de là. Et donc effectivement, je suis la contribution que j'apporte aux deux blocs, c'est pour moi tout à fait le prolongement de ce plaisir-là, du fait de pouvoir l'alimenter. Donc celui de Samara qui s'arrête beaucoup sur la bande dessinée, et en fait on en anime un autre avec mes collègues qui propose d'envisager l'histoire et la géographie enseignées à travers la musique, qui s'appelle Liste Géobox. Voilà. Donc le sujet qui nous préoccupe, j'y viens quand même, il serait temps, quand les cases se mettent au vert afin que la BD rencontre la géographie scolaire, de quoi parle-t-elle? Voilà. Pour moi, essentiellement de deux choses. La première, elle est liée au concept glouton qui a été introduit dans les derniers programmes de géographie, qui est le développement durable, sous toutes ses déclinaisons. Dans ce domaine, j'ai choisi de m'arrêter plus spécifiquement sur la question des risques et de leurs effets sur la nature, à travers la bande dessinée, évidemment. La seconde, c'est pas une question programmatique en soi, mais davantage une espèce de fil rouge un petit peu éparpillé sur les différents niveaux d'enseignement, et c'est donc la thématique du monde rural, des mondes ruraux ou des ruralités, parce qu'on l'envisage comme l'a signalé Julie ce matin, on le voit sous différents angles, espace productif, dans ses rapports à la ville, dans ses usages conflictuels, dans les usages conflictuels que peuvent en avoir les acteurs. Bon, une fois qu'on a posé cela, il m'a semblé, en tout cas à mon échelle, plus pertinent d'illustrer mon propos par quelques œuvres que j'ai prélevées aussi en fonction de ce que j'avais, ce que je me semblais assez bien connaître, non pas pour vous proposer des pistes de travail en classe, parce que je pense que c'est pas du tout le propos. C'est des sites académiques font ça très bien, et puis je suis assez, par ailleurs, hermétique à ce type de recettes. Mais l'idée, c'est plutôt de vous proposer des pistes d'analyse avec quelques exemples qui sont pas forcément généralisables, ce qui justifie évidemment le titre de mon intervention, des regards singuliers sur les risques et les ruralités. Et en fait, à l'idée de transmission, je préfère me positionner ici plutôt dans une perspective de circulation, d'échange, de questionnement. C'est pourquoi tout ce que je vous propose, évidemment, c'est à mettre en débat sans aucun problème. Ça n'a pas vocation du tout à être une vérité biblique. Je commencerai donc... Alors là, il va falloir que je mette en route, voilà, le diaporama. J'ai choisi deux œuvres d'un côté qui abordent la question des risques et deux œuvres de l'autre côté qui abordent la question des ruralités. Voilà. Donc je commencerai par les deux œuvres qui abordent la question des risques. La première, c'est celle qui s'intitule « Saison brune » et qui est signée de Philippe Squarzoni. La seconde, ce sera « Un printemps à Tchernobyl » d'Emmanuel Lepage, dont il y a un exemplaire mis à disposition. Alors, dans « Saison brune » de Philippe Squarzoni, il me semble qu'on a une nature qui... soumise au risque qui oscille entre paradis perdu et apocalypse. C'est la mise en tension que l'auteur effectue. Donc Philippe Squarzoni, c'est un spécialiste des enquêtes en documentaire graphique. Vous voyez quelques-unes de ses productions sur la diapositive projetée. Il a fait au préalable des reportages en Amérique latine auprès des apatistes, au Mexique. Il a publié également un volume qui s'appelle « Dole qui interroge les politiques libérales à l'époque du Premier ministre Raffarin, me semble-t-il. Voilà, donc c'est quelqu'un qui très clairement se positionne dans la nébuleuse de Jo Sacco, par exemple, qui fait du journalisme graphique ou de l'enquête graphique. Il est très, si on le classe dans l'arbre généalogique de la bande dessinée, il me semble qu'il se situe à peu près par là. Son ouvrage, qui est paru en 2012, donc il est quand même assez récent, je crois que c'est son dernier, se veut une plongée au cœur de la problématique du réchauffement climatique. Donc l'auteur va y brasser une foule de questions connectées en géographie à celle des risques, et évidemment, au-delà à celle du développement rural, entendu comme un modèle alternatif à celui qui est le modèle de développement dominant aujourd'hui. Et donc, il aborde la question des risques ayant pour origine un aléa naturel ou un aléa technologique, mais aussi la question des ressources, de leur utilisation, de leur prédation, celle du réchauffement climatique dans ses causes, ses mécanismes naturels ou humains à l'œuvre. Et il aborde aussi la question des études qui permettent d'en évaluer l'avancée ou la portée. À titre d'information, si vous n'êtes pas spécialiste des programmes scolaires, je vous le signale quand même, la question du développement durable, avec les risques notamment, est au cœur des programmes de 5e et de 2e, sachant qu'ils sont quasiment à l'exemple près mis à l'étude identique. On fonctionne en géographie et en histoire scolaire sur le modèle du bégaiement entre le collège et le lycée. Alors, par contre, oui, si c'est ça. Voilà. Donc, l'auteur, pour traiter la question des risques, en fait, il va utiliser deux niveaux de lecture et les proposer au lecteur. Il va les alterner, les confronter en permanence. Le premier, c'est le discours des experts que vous voyez ici. Donc ça, c'est extrait du site des éditions Delcourt qui publie la BD. Il s'abreuve beaucoup aux enquêtes du GIEC, mais pas seulement. Ceci étant dit, vous voyez que ça lui permet de donner un véritable aspect scientifique à son discours sur la nature. Ici, on vous distingue des graphiques. Voilà, il y a une volonté de pédagogie, d'explication. Et en fait, il met le discours des experts en regard avec sa propre réflexion citoyenne, qui est beaucoup plus tâtonnante, beaucoup plus confuse, en construction permanente. Et donc, il cherche à faire se rencontrer les deux. Ça m'a amusé parce que, à un moment donné, page 424, alors j'ai pas amené le volume parce qu'il est un peu lourd, il disqualifie d'un revers de la main assez dédaigneux le discours des géographes parmi la parole des experts. Et il y a notamment le visage de Sylvie Brunel qui apparaît page 424 et qui est complètement mise de côté comme étant pas du tout spécialiste du climat. Donc, bon, elle, on ne l'entendra pas, on ne retiendra pas son expertise. Squarzoni, pour mener son enquête, il va pratiquer avec une aisance assez remarquable, en fait, l'emboîtement scalaire. Donc, il traite la nature à toutes les échelles, mondiales, régionales, nationales, locales. Quand il met les paysages naturels en case, il semble privilégier des marqueurs géographiques, j'appellerais ça comme ça, qui vont créer du commun, parce qu'il a besoin, en fait, de donner une portée à sa thèse, à sa démonstration, et de susciter l'adhésion du lecteur. Donc, du coup, ben, on reconnaît sur la diapositive, vous voyez, les neiges du Kilimandjaro, les grands glaciers des États-Unis, la forêt amazonienne éventrée, et puis l'ours polaire errant sur sa banquise en pleine dislocation. Donc, c'est un procédé qu'il utilise souvent parce qu'il est dans une véritable démarche d'alerte. Il a, en tant qu'auteur, une posture vis-à-vis de la nature qui est très inquiète, très pessimiste. Et son enquête, en fait, consiste à dévoiler les risques multiples qui interagissent pour menacer la Terre dans son équilibre naturel, ainsi que dans les formes de vie qui s'y sont développées. Donc, il va représenter une nature parfois préservée. Vous voyez, là, il est amené au cours de son récit à faire de l'introspection. Alors, ça nous renvoie à ce que disait Julie ce matin. La nature, c'est un cadre méditatif important. Là, c'est le cas. Il est souvent présent dans les Alpes. Donc, on voit sur la planche, alors, pour moi, c'est à droite et pour vous, donc ça va être à gauche, une représentation du paysage alpin. Il évoque aussi la nature institutionnellement protégée, puisqu'il est amené à se rendre dans les parcs américains. On sent qu'il a quand même un goût certain pour la montagne, notre auteur. Alors, cette nature, il la dessine évidemment majestueuse, spectaculaire, avec une faible présence humaine. Et en fait, il va venir Il va venir faire se fracasser littéralement ses représentations d'une nature majestueuse avec des images de la ville industrieuse et polluée que vous apercevez désormais à l'écran, et puis des visions d'apocalypse où là on va retrouver des paysages naturels, mais alors dans une perspective de fin du monde complètement, la sécheresse, les ouragans, et vous voyez que sur une des images ici, il accole des scènes de combat extrêmement confuses qui évoquent un petit peu des images cinématographiques de ces dernières années, d'heroic fantasy, de choses comme ça, type Le Seigneur des Anneaux, combat ultime du bien contre le mal. Donc il convoque à travers ces images mises en opposition un regard, enfin il développe un regard vraiment très particulier. Je me risquerais à dire qu'on est dans un registre religieux, hein, dans sa démonstration. Il va déployer véritablement une vision millénariste Swarzoni à partir de l'état des lieux qu'il dresse. Il va donc aussi, à certains moments, mettre en regard des paysages très protégés de son enfance. Alors lui, il a grandi en Ardèche. Donc, vous voyez ce qu'il montre du monde rural. On retrouve la maison de pierre qu'on a vue ce matin dans les images de l'Arsenais, par exemple. Et puis, il évoque cette enfance qui est une sorte de paradis perdu qui aurait été, que lui, il a connu préservé des prédations venues ultérieurement. Et il va construire quelque chose qui va vers la fin du monde. Il fait une référence au paradis perdu qui a été profané. Et je voudrais qu'on poursuive la réflexion qui a été aussi amorcée à plusieurs reprises ce matin, c'est les parallèles avec le cinéma. Parce qu'en fait, quand j'ai lu la BD de Squarzoni, enfin, c'est plutôt une enquête graphique, on va dire, qu'une bande dessinée, il y a une image qui m'a interrogée et qui est une image, pour moi, cinématographique. À trois reprises dans son travail, on voit apparaître cette image de la main, donc qui effleure des herbes hautes. Et en fait, elle apparaît de façon très équilibrée, donc bien trois fois. Et il l'introduit à chaque fois qu'il évoque ce paradis perdu de son enfance. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais moi, cette image, elle m'a immédiatement évoqué le film de Ridley Scott, Gladiator. On voit exactement le même plan. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil qu'il fait ou si ça vient appuyer finalement l'analyse que moi j'en tire, à savoir quelque chose qui est de l'ordre du mystique, du religieux, parce qu'en fait, dans Gladiator, cette image de la main de Maximus qui effleure les champs de blé, c'est la dernière image de sa maison qui a été elle aussi profanée, sa famille qui a été détruite, sa femme violée, son fils assassiné, enfin je ne vous passe les détails du film. Il y a une mise en parallèle là, des deux images qui m'a semblé intéressante, et alors là ça, je vous livre ça, cette piste telle quelle, sans plus de commentaires, parce que je ne sais pas s'il a voulu faire juste un clin d'œil finalement, ou si ça procède également de son discours global sur cette nature complètement menacée. Donc ça, c'est une vision des risques, voilà, un regard sur les risques, celui de Squarzoni. Je vais vous en proposer un deuxième, qui est celui de Lepage, et pas du tout identique, pas du tout la même tonalité. Alors, Printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage, pour moi, c'est vraiment le travail qui résume l'idée d'un regard complètement en transformation, en mutation. Et avant tout commentaire, je vous propose de s'arrêter sur cette planche, voilà. Sur cette vignette plutôt, parce que je crois qu'elle fait partie, je crois que je l'ai sectionnée. Donc on voit Emmanuel Lepage, qui est celui qui tient le crayon sur le côté, qui est assis, qui dialogue avec un de ses amis. Et alors, pardon, il faut que je m'approche parce que pour moi c'est tout petit. Alors, c'est Gilles, voilà le dialogue. Gildas, tu crois qu'on peut dire, entre guillemets, Tchernobyl c'est beau, point d'interrogation. Je sens confusé. Je suis désolée, c'est trop petit pour moi. Je sens confusément l'ambiguïté de ces mots collés l'un à l'autre. Pourtant, c'est ce que me souffle mon dessin. La mort a ce visage, point d'interrogation, ça ne colle pas. On ne m'a pas envoyé ici pour revenir avec ça. Voilà. Avec cette vignette, vous avez à peu près toute l'intrigue de l'œuvre de Lepage dans ce volume, en fait. Donc, lui aussi, hein, il dit qu'il participe en fait à une enquête ou à un reportage dessiné. Avec cette nuance près que je vais vous montrer quelques planches et puis je vous invite fortement à aller feuilleter le travail de Lepage, il y a une, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les images qu'il produit, quoi. Il fait des planches parfois gigantesques, qui ont un aspect parfois aquarellisé, très très, c'est vraiment magnifique. Il a un dessin qui est magnifique. Alors que je pense que Squarzani, Sacco, même si leur dessin n'est pas inintéressant, c'est la force du discours qui est derrière, qui clairement est prioritaire. Donc dans Un printemps à Tchernobyl, quel est le propos d'Emmanuel Lepage? Il se voit offrir la possibilité de faire un reportage dessiné dans la zone interdite. Il part avec un groupe d'artistes, en fait, dont la plupart se sont déjà rendus sur place, qui sont des artistes associés, militants, qui s'y installent pour un temps limité, hein, mais un temps quand même certain, en résidence. Ils y vont en 2008, soit 24 ans, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas très très bonne en mathématiques, après l'accident nucléaire qui a affecté la centrale de Tchernobyl. Ils sont accueillis chez l'habitant, en lisière de la zone contaminée, dans un petit village composé de deux rues. Donc, pour l'anecdote, il y a quand même celle de la Révolution et celle du 1er mai. On est bien en Ukraine. Hein. Les artistes vont peu à peu, en fait, on va les voir, investir ce territoire de la zone interdite. Et en fait, pour Lepage, comme on le comprend sur cette vignette, ça va être l'occasion d'un long cheminement qui va bouleverser ses préjugés de départ. En fait, il part à Tchernobyl. Il part dans cette zone interdite avec les représentations qui sont un peu les nôtres aussi, il faut bien l'avouer. Hein. Il se souvient des actualités télévisées de l'époque ou de la presse de l'époque. Donc j'ai pas tout retrouvé, mais bon, on se souvient tous de ces images très pédagogiques où on nous a expliqué que l'anticyclone qui stationnait sur la France à l'époque allait stopper le nuage radioactif en provenance d'Ukraine. Je regrette vraiment de ne pas avoir retrouvé Brigitte Simonetta expliquant ça, parce que Brigitte Simonetta est quand même devenue conseillère chez Areva aujourd'hui, donc c'est un parcours intéressant. À l'époque, elle présentait la météo, à l'époque de l'accident de Tchernobyl, et c'est elle qui était chargée de l'explication du « le nuage ne passera pas », voilà, une lune de libération, et en fait, il s'est nourri aussi beaucoup le page des travaux de Svetlana Alexievitch, que ce soit les cercueils de zinc où elle a suivi les pompiers là qui sont allés éteindre le réacteur, ou la supplication qui est plus dans l'après Tchernobyl et ses conséquences donc auprès de la population restée alentour. Donc à plusieurs endroits dans son documentaire, il va verbaliser ce qu'on voyait sur la première vignette, l'inattendu, l'incompréhensible de ce qu'il voit, en fait, de ce à quoi il se trouve confronté. Mais plus que les mots, c'est vraiment le procédé graphique qui va mettre en avant, je dirais, sa découverte de la nature telle qu'il la voit sur place. Donc pour moi, elle se catégorise en trois parties. La première, ce serait celle-ci, qu'on voit assez bien. Celle-ci, il faut vraiment la voir. Moi, je l'ai été obligée de la couper pour la scanner, mais c'est une énorme double page dans son travail. C'est donc une nature meurtrie, stérilisée, outragée. Je pense que vous savez qu'on a tourné un premier film de fiction en 2012 qui s'appelle « La Terre outragée » dans la zone interdite. Alors, j'ai relevé le nom de la réalisatrice. C'est Michel Boganim qui avait tourné ça. Et donc, voilà, c'est un titre évocateur. Ce sont des planches très grande, qui figure essentiellement, vous voyez, comme paysage, la forêt. On la découvre évidemment fantomatique, une ambiance complètement funèbre, avec des arbres hauts, décharnés, des troncs qu'on devine stigmatisés. On voit qu'il utilise son graphisme là pour essayer de poser sur le dessin des traces du traumatisme. Et puis à l'arrière-plan, le monstre technologique qui est présent là, comme très menaçant, mais visiblement inanimé. Donc c'est une forêt ennemie, mortifère, une sorte d'antichambre de l'enfer à laquelle, bien entendu, il va donner le ton du noir et blanc. Forcément, on comprend que la couleur vient en appui de sa démonstration. Je dirais que ça, c'est sa première vision de la nature. Quand il commence à rentrer dans la zone interdite, on va avoir une vision de la nature beaucoup plus mutante et menaçante. Et c'est un maillon clé de sa réflexion au cours de son séjour. Donc il est parti avec ses préjugés, ses stéréotypes sur Tchernobyl, pardon, et il va se mettre en quête d'aller trouver dans la nature, et en particulier dans la forêt, qu'il représente beaucoup, des traces tangibles des suites de l'accident nucléaire. Donc comme il est en pleine réflexion tout le temps. Il oublie un petit peu le caractère invisible, hein, finalement, de la mort radioactive. Et du coup, il va aller débusquer à tout prix dans la forêt des signes palpables de l'accident, quitte à être dans la surinterprétation. Ce qui est le cas là, il le dit, hein, il croise à un moment donné un champignon monstrueux sur un arbre et automatiquement, pour lui, il y voit un signe de la présence de la radioactivité. Et puis, vous voyez que de temps à autre, il part dans quelque chose de beaucoup plus irrationnel avec cette forêt qui se transforme en gueule de crocodile dévorant les hommes. Et là encore, on reste dans le noir et blanc. Et puis après, beaucoup de choses changent finalement parce que la deuxième partie de son ouvrage, même s'il n'y a pas une césure très claire, hein, elle bascule sur cette vignette, en fait, hein, sans doute. On le voit, je ne sais pas si vous voyez en haut, mais en fait, il mène sur les trois petites cases de vignette du haut, il mène un dialogue intérieur et il dit que, en fait, il était parti qu'avec du noir et blanc, quasiment, ses crayons, et puis qu'au bout d'un moment, il avait quand même pris quelques couleurs avec lui, puis qu'il est contraint de les sortir, il sent bien qu'il ne peut pas faire autre chose. Donc la troisième vision de la nature qu'il nous montre à nous lecteurs dans sa bande dessinée, c'est véritablement une nature magnifiée. Et en fait, c'est très long parce qu'on sent que ça repose sur une appropriation, une visite, des incursions successives dans la zone interdite, mais aussi une rencontre avec les gens qui accueillent les artistes, le fait qu'ils restent là. Ça transforme donc sa vision de la nature qui devient complètement luxuriante, chatoyante, ou, alors vous avez une autre présentation, vous voyez, avec beaucoup de vers, beaucoup de, même si là il y a des signes de blessure, hein, on retrouve quand même une colorisation, une mise en couleur qui évoque une nature en pleine forme. Et puis ici, des planches plus douces, avec, vous voyez, un contact direct. Il passe son temps à dessiner avec un masque, hein, il se représente en train de dessiner avec un masque, là on voit qu'il l'a posé. Donc il y a une confiance qui se crée avec la nature qu'il dessine. Et vous voyez, c'est des paysages qui deviennent extrêmement, au contraire des tout premiers, très paisibles, très sereins. Et donc du coup, on voit bien l'évolution par rapport au début. En tout cas, il m'a semblé qu'on était dans une transformation assez radicale de son regard sur la nature. Donc au départ, le page, il est parti avec un petit frisson quand même à l'idée d'aller frôler la mort dans la zone interdite. Il a été aussi effleuré par une quête de rédemption, parce qu'il part avec une main endommagée, donc l'expérience dans la zone interdite, il la prend comme une espèce de parcours du combattant qui va l'amener à la guérison. Et puis en fait, il termine sur une tonalité tout autre, avec une intelligibilité, me semble-t-il, hein, du monde qu'il découvre, qui est plus sensible, plus juste. Et contrairement à l'auteur précédent, Squarzoni, lui, il n'est pas du tout dans une vision apocalyptique. Il se positionne, il dessine une nature qui est une véritable une forme de résistance au risque et une véritable ode à la vie, finalement, aux formes de vie qui reprennent le dessus après l'accident. Donc voilà pour ces deux premiers regards. Je vais continuer avec dessiner, je m'excuse pour les manipulations techniques qui elles s'intéressent donc au monde rural. Donc on change un peu de registre, c'est pas qu'on était vraiment dans la ville, mais sur les ruralités. Alors le premier, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, c'est le retour à la terre qui évoque un rural, je dirais, bien en marge et vu par un urbain. Et le second, c'est un ouvrage qu'on a aussi évoqué ce matin qui s'appelle La communauté. Donc là, du coup, je vais revenir dans mes travers d'historienne de formation parce qu'il y a quand même un aspect historique, donc je vais finir par vous ramener sur mon terrain, bon an, mal an, qui raconte une expérience de vie collective. Donc on est dans des retours à la Terre à deux époques différentes finalement. Je commencerai par le plus contemporain. Donc le retour à la Terre, c'est une série en 5 volumes de Manu Larsonnet. Bon, j'ai pas besoin de vous le présenter particulièrement. Vous le voyez en photo avec sa casquette là. C'est un auteur de BD à succès. Il a fait des séries qui sont quand même parmi les grands succès de la bande dessinée ces dernières années, dont Le Combat Ordinaire et Blast. Et on l'oublie souvent, mais pour les gens qui lisent un peu des BD aussi historiques, il est associé pour Le Retour à la Terre à un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Ferry, qui est l'auteur d'un drôlissime De Gaulle à la plage. Vraiment, c'est un remède contre la morosité imparable. Donc, de quoi parle le retour à la Terre ? Le retour à la Terre, il suit l'installation de Mariette, que vous voyez sur la planche de gauche pour vous, avec Manu, son copain, qui viennent de Juvisy, donc ce sont de bons banlieusards, dans un hameau, village qui s'appelle les Ravenelles. La localisation est relativement incertaine. Donc le couple vient y chercher un nouveau mode de vie, d'où le titre des 5 volumes, hein, Le Retour à la Terre. Lui, plutôt une source d'inspiration pour écrire des BD, puis sa compagne, lui, plutôt dans l'idée de fonder une famille. Voilà, donc c'est un projet plus personnel. Et évidemment, leur projet s'insérant dans le monde rural, ils vont être en contact avec des personnes qui figurent, donc les ruraux, qui ont des mœurs un petit peu étranges, pour ne pas dire, Larsonnet pose son regard dessus, totalement folklorique. Des ploucs, je crois qu'a dit Julie ce matin. C'est un petit peu de ça. Ça oscille entre le plouc et l'espèce en voie de disparition, je trouve. Le monde rural, dans le retour à la Terre, ce sont essentiellement des paysages, des décors, quelques habitants. En fait, quand on balaye les 5 tomes, c'est assez surprenant de voir à quel point il n'y a pas tant d'apparitions de la nature ou du monde rural dans les planches de Larsonnet. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, au final, hein. Donc il n'y a que ces petits éclairages ponctuels qui peuvent nous aider à cerner l'identité de ce qu'il montre. Il n'y a pas ou peu d'agriculteurs dans le monde rural de Larsonnet. Il y a un chasseur qui se promène de temps à autre. Donc on le voit là-haut avec Manu dans la forêt. Il y a Madame Mortemont qu'on a croisée ce matin, éventuellement aussi. Ils sont entrés dans des habitus d'un autre âge, et puis visiblement ils parlent pas le même langage, ils parlent pas du tout le même langage que Manu. Alors voilà, quand on se promène dans les paysages du retour à la Terre, on a des champs vides d'activité. Voilà, c'est des endroits où on se promène, et puis on a quelques bêtes d'élevage qui sont vaguement présentes et qui là aussi ne dénote pas spécifiquement d'une activité intense du monde rural. Alors, du coup, j'accélère parce qu'on me presse. Je voulais plutôt vous parler de la forêt, encore une fois, dans le retour à la Terre, parce que c'est vraiment un décor qui n'est pas du tout, anodin. C'est du décor naturel, de la nature qui est mise en case dans le retour à la Terre, c'est celui qui revient le plus souvent. Et là encore, on est dans une vision, je dirais, mystique ou un petit peu religieuse, à mon sens, de cet espace particulier. Donc, il s'y rend régulièrement, Manu, dans la forêt, et en fait, c'est là où il va laisser s'exprimer, ses peurs, ses craintes. Alors, on le voit à la fois dans le dessin et à la fois dans le titre des planches. Vous voyez, il y a l'errance, le traumatisme. Le premier, c'est quoi ? Le cauchemar, voilà, donc on voit un arbre qui se transforme en monstre, il y a des animaux monstrueux qui surgissent, donc on est, encore une fois, au-delà d'un espace humanisé, il y a très très peu d'humains dans la forêt de Larsonnet, c'est quasiment le seul qui rentre avec le chasseur, c'est les deux seuls qui trouvent, les formes de vie sont plutôt menaçantes, et en fait, voilà, donc ça, c'est ainsi qu'il va délimiter pour partie cet espace qui est donc plutôt sauvage et aux frontières de la domestication. C'est le monde connu, le monde après le monde rural. C'est plus encore plus dans le Finistère de l'étrangeté pour lui, finalement, qui reste fondamentalement dans ses modes de vie, ses façons de regarder le paysage et la nature alentour. Lui, c'est un urbain. Par contre, c'est quand même un territoire qui est assez paradoxal, la forêt, dans le retour à la Terre de Larsonnet, parce qu'il y a un personnage qu'il rencontre régulièrement, qui est le personnage de l'ermite. Et l'ermite, il a une identité extrêmement floue. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est un esprit. Il ne ressemble pas à un agriculteur. Il a une espèce d'allure de capitaine caverne. Voilà, il philosophe, il lui donne des conseils bienveillants. Et de temps à autre, il s'envole. Donc, en fait, d'un côté, dans le retour à la Terre, on va avoir un monde rural qui est vraiment marginalisé. Marginalisé démographiquement, c'est des petits vieux, marginalisé dans ses mœurs, marginalisé dans ses activités qui représentent plus grand-chose, visiblement. Et de l'autre côté, on a cette présence de la forêt, qui est le domaine de l'irrationnel, du mystique, de la menace du non-domestiqué, voilà, donc qui vient se mettre en regard. Alors, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, quand même, je voudrais vous parler de cette BD vraiment très, 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 très chouette qui s'appelle La Communauté. C'est un dialogue à deux. L'auteur, c'est Hervé Tancrel, c'est celui qui a les lunettes, qui interroge en fait son beau-père, Yann Benoît, qui a fait une expérience de retour à la Terre 4 ans après mai 68. Donc on est dans l'idée de l'utopie rurale. Et en fait, dans ce volume, il y a une proposition de regarder la nature comme un contre et le monde rural comme un contre-modèle possible au genre de vie de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Donc, comme dans le retour à la terre, on est quand même dans le regard d'urbain hein, sur le monde rural. On le voit sur cette planche. Il y a cette idée que le paysan est forcément bon. Il y a une espèce de mythologie autour du monde rural qui n'est pas corrompu, qui est propre, je pense, qui est propre à l'urbain. Alors après mai 68, c'est posé le choix de que faire après les mouvements révolutionnaires. Et en fait, on voit que lui, le choix qu'il propose, il est relativement clair. Soit on suit les établis et on associe, dans une démarche de poursuite de mai 68, la ville, l'usine. Donc les établis, vous savez, c'est ces gens qui allaient travailler en tant qu'ouvriers chez Renault, comme c'est Linhart qui a publié un bouquin qui s'appelle « L'établi », où il raconte cette expérience. Soit on retourne au statu quo, soit ben, on décide d'aller à la campagne proposer un contre-modèle à la société et donc de poursuivre l'expérience de mai 68 autrement. Donc c'est un contre-modèle à tout point de vue. C'est un contre-modèle économique parce que lui propose un système autarcique alors que le modèle dominant est un modèle déjà productiviste. C'est un contre-modèle social puisque la société auquel il s'oppose, c'est une société qui prône l'individualisme alors que eux, ils défendent la possibilité de faire une expérience collective. C'est aussi un contre-modèle politique et moral. Donc la ville, c'est la corruption, l'appropriation. L'expérience que eux, ils souhaitent développer, c'est une expérience qui se veut authentique, une expérience de partage. Je me dépêche, c'est ça. Donc j'essaie de raccourcir, mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que le monde rural tel qu'il le montre, il retranscrit donc cette expérience communautaire. C'est un monde rural donc qui est pas un décor. Véritablement, on voit les gens, les anciens urbains devenir des ruraux, s'approprier l'espace rural, que ce soit le bâti, que ce soit le foncier. Et évidemment, ils sont toujours dans une perspective comparatiste avec l'autre modèle. Et en fait, c'est la confrontation entre les deux qui va faire échouer le leur, parce que les contacts et les articulations avec le modèle dominant vont faire mourir le modèle utopique. Alors, quelques images quand même de l'expérience de la communauté. Vous voyez qu'ils produisent. Dans les champs, on les voit avec des machines, ils font de l'élevage. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on a cette notion d'espace productif hein, dans les programmes scolaires. Le monde rural, espace productif, et je crois que c'est un domaine de la géographie universitaire aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qui est bien dans l'idée de faire des va-et-vient entre 72 et nos jours, c'est qu'on voit à quel point cette notion d'espace productif en géographie a évolué. Et en fait, eux, à l'époque, l'espace productif n'a pas du tout le même entendement qu'aujourd'hui. Moi, quand je dois faire étudier les espaces productifs à mes élèves de 3e, c'est des espaces qui sont connectés aux circuits d'échanges mondiaux, qui sont dynamiques, toujours en mouvement, qui doivent générer de la production. Et en fait, à l'époque, lui, ce qu'il entend par espace productif, c'est quelque chose qui permet un équilibre de vie, un projet de vie qui satisfasse une communauté déterminée. Et du coup, sous-tendu là-dedans, il y a une critique, évidemment, du monde, des choix de société qui sont opérés dans le monde rural ou des choix de production qui sont opérés dans le monde rural pendant les Trente Glorieuses. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça finit par être l'arroseur arrosé parce que leur projet qu'on qualifiait au départ d'utopique, et sous le terme péjoratif, on finit par se demander s'il était vraiment. Parce que quand aujourd'hui, on interroge le monde rural, l'espace productif, le gaspillage, la mécanisation, la chimisation de l'utilisation massive de produits chimiques, etc. pour un système qui finalement va dans le mur et qui génère des productions en bande dessinée très critiques et militantes sur des modèles alternatifs, ben eux, le modèle alternatif, après 68, ils l'ont expérimenté. Donc du coup, il y a un espèce de va-et-vient dans le temps, de regard comme ça, entre les deux époques, qui me semble assez intéressant. Voilà, donc je sais que je vous ai proposé un parcours extrêmement hétéroclite, j'en suis bien consciente. En même temps, voilà, on a navigué entre les risques, la ruralité, la bande dessinée, la classe de géographie. Quel est le fil un petit peu entre tout ça ? Ben, l'idée, c'est justement, enfin moi, il me semble, c'est de sortir un peu des généralisations. Parce que nous, en tant qu'enseignants, on nous impose de partir d'une étude de cas pour en faire toujours une généralité. C'est une démarche qui nous est imposée tout le temps. Et en fait, moi, je pense que de temps en temps, prendre des exemples singuliers pour ce qu'ils sont, ça peut juste constituer en fait une mise en bouche à une réflexion. Plus vaste, à la découverte d'autres choses. Et je pense que la bande dessinée, vraiment, est une ressource qui a toute sa place dans la classe, dans les bibliothèques, et c'est une ressource infinie pour ça. Et donc, à travers 4 œuvres, on voit déjà beaucoup de possibilités, et je pense qu'on n'a pas fini d'en explorer les contours. Voilà.
Merci.
Désolée, c'est après. Moi, là, c'est sur la fin.
Merci. Du coup, on prend retenez un peu les questions en tête pour le moment de débat.
Oui,
tu reviendras à ce moment-là. On accueille pour clore cette matinée Frédéric Ducarme qui donc nous arrive, qui est doctorant au musée.